Vous écoutez
RMC.
Il est 8h, passé de 1 minute. Très belle journée sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Et ce matin, c'est difficile pour ceux qui ont fait la fête toute la nuit après la victoire des Bleus 2-0 contre le Maroc, c'était hier soir. Des Bleus impitoyables qui iront à Dallas, mardi, pour jouer leur demi-finale. C'est dur aussi ce matin parce qu'il fait chaud. Le gouvernement déclenche, vous allez voir à l'instant, un plan inédit face à la canicule qui s'étend. Et alors ça, c'est le transfert de l'année et c'est pas du football. La France a livré dans la nuit sa célèbre tapisserie de Bayeux à nos voisins d'Angleterre.
Ça ne pouvait pas mieux tomber. C'est mardi, le 14 juillet, que la France jouera sa demi-finale du Mondial.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
À Dallas, que les Bleus joueront cette demi-finale, soit contre l'Espagne, soit contre la Belgique, les deux équipes qui s'affronteront ce soir à la Coupe du Monde. Au lendemain donc de la victoire de nos Bleus 2-0 contre le Maroc, avec un but de Kylian Mbappé et un autre d'Ousmane Dembélé, les Bleus ont encore impressionné. On a vécu ça, tout ça sur RMC, et ils ont même déclenché des scènes de liesse qu'on adore voir cette nuit. C'était à Paris, dans le secteur des Grands Boulevards.
À choisir, l'Espagne, c'est pour la difficulté, mais la Belgique, j'aime bien leur foutre une raclée. Ce serait un plaisir de taper nos amis belges. Donc j'espère que ce sera la Belgique qui passera.
Oh non, parce que moi, les Espagnols, j'étais à l'Euro en demi-finale. Je les ai vus ce qu'ils ont fait. C'est le moment pour nous de leur montrer ce qu'on peut faire.
On prend celui qui vient, on verra. Et celui qui vient, on sera prêt.
Alors il y a beaucoup de confiance, on l'entend chez les supporters de l'équipe de France, mais c'est presque normal, j'ai envie de dire. Jean-Louis Tour, vous êtes en direct de Boston ce matin pour RMC après avoir commenté le match hier soir. Cette équipe de France impressionne le monde entier tellement elle fait déjouer ses adversaires.
Oui, parce que le rouleau compresseur français continue de tout emporter. Les matchs suivent et se ressemblent, comme contre la Suède en 16e de finale, le Paraguay en 8e, le Maroc en quart de finale a paru totalement inoffensif. Pourtant, Kylian Mbappé n'a pas voulu s'emballer hier après le match sur cette équipe de France version 2026, quand on lui a demandé si c'était la plus forte dans laquelle il avait joué.
C'est pas la plus forte. J'étais champion du monde et j'ai été vice-champion du monde. Cette équipe, elle est ni champion du monde, ni vice-champion du monde. Donc à l'heure actuelle, c'est pas la plus forte. C'est celle qui a le plus de potentiel. Celle avec laquelle on peut se projeter le plus facilement. Où il y a beaucoup de qualités. Elle te permet de rêver, bien sûr, mais la plus forte. J'ai toujours dit que les équipes fortes, c'est les équipes qui gagnent. Et jusqu'à preuve du contraire, je vois pas de coupe dorée à côté de moi, donc c'est pas l'équipe la plus forte.
Ce sera pour plus tard peut-être la coupe dorée à côté. Mbappé qui est sorti après avoir pris un coup par précaution hier selon nos informations. Sa cheville qu'il a déjà fait souffrir dans le passé sera suivie de près par le staff médical. Sa présence n'est tout de même pas remise en cause pour la demi-finale. Ce sera soit contre la Belgique, une équipe qui nous réussit bien sur les dernières compétitions, soit contre l'Espagne qui elle nous avait éliminé à l'Euro il y a 2 ans en demi-finale.
On s'en souvient effectivement, Jean-Louis Tour en direct donc des États-Unis ce matin pour RMC. La presse étrangère est encore dithyrambique avec nos Bleus ce matin. Les Espagnols justement, ils trouvent que les Bleus sont encore meilleurs que lors des derniers tournois. Et les Allemands, c'est les plus élogieux, ils écrivent que c'est, je cite, la prise d'assaut la plus irrésistible depuis la Bastille. Alors vous savez qu'il y avait un très gros dispositif de sécurité qui était déployé partout en France pour que la fête reste une fête. Hier soir, BFM TV parle d'une nuit sans heure à Paris, 10 interpellations en région parisienne, quelques incidents rapportés par la presse locale à Nice et à Grenoble par exemple. Et finalement, c'est à Londres, en Angleterre, qu'il y a eu des heurts entre supporters et forces de l'ordre visées par des jets de bouteilles et des tirs de mortier. Tiens, puisqu'on parle de Londres, c'est une des infos du matin et c'est même un événement. La France a livré durant la nuit un de ses trésors nationaux, à savoir la célèbre tapisserie de Bayeux qui date du Moyen-Âge. On en parle depuis des mois de ce transfert. Elle est arrivée, cette tapisserie, au British Museum. La France va la prêter en fait pendant un an aux Anglais. Romain Houck pour RMC, c'est un tel joyau qu'elle a voyagé dans des conditions de sécurité incroyables.
Oui, étant l'œuvre d'une extrême fragilité. La tapisserie de Bayeux, elle date, tenez-vous bien, du 11e siècle. C'est une broderie en laine de 70 mètres de long qui a traversé les époques pour arriver jusqu'à nos jours. Mais vous l'imaginez, non sans quelques égratignures, l'œuvre qui retrace la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant est déjà écorchée à près de 30 endroits et les experts dénombrent pas moins de 10 000 petits trous. Il faut dire qu'elle est aussi fine que de la dentelle. Bref, de quoi donner des sueurs froides aux défenseurs du patrimoine qui redoutaient que ce voyage n'aggrave encore son cas. C'est donc dans un double caisson anti-vibration spécialement conçu que la tapisserie a quitté sa Normandie pour voyager jusqu'à Londres dans un camion réfrigéré à 20 degrés, 50% d'humidité sous escorte policière. Même la date du trajet a été tenue secrète jusqu'au dernier moment. Le voyage alors s'est très bien passé, nous dit le ministère de la Culture, dont l'une des représentantes a accompagné dans le cortège l'œuvre jusque chez nos amis britanniques. Désormais, elle va être préparée au British Museum avant d'être finalement exposée au public pour près d'un an à partir du 10 septembre prochain.
La canicule continue de tisser sa toile ce matin. Elle s'étend. 9 départements de l'Ouest sont en alerte rouge, 76 autres en orange. Et alors Géraldine Demory, Météo France prévient déjà que la vigilance rouge va s'étendre demain à 2 autres régions, à savoir Île-de-France et Centre-Val de Loire.
Encore une fois, c'est le scénario du pire qui est en train de se mettre en place avec cette goutte froide au large du Portugal, donc qui va agir vraiment comme une pompe à chaleur. C'est-à-dire qu'elle va aspirer l'air qui est extrêmement en chaud du nord de l'Afrique et le faire remonter sur la France. Dans les prochains jours, on aura régulièrement 40 degrés entre la Garonne et la Loire. Les nuits vont être étouffantes. Les températures ne vont pas descendre sous les 22, voire parfois les 25 degrés, avec un pic attendu entre dimanche et lundi. Au niveau national, on devrait se rapprocher des pics historiques des 24 et 25 juin dernier, sachant que pour déclarer une vigilance rouge canicule, il n'y a pas que les températures qui rentrent en compte. Il y a aussi l'attention sur les hôpitaux et le contexte, puisqu'on va avoir de grands départs en vacances et en week-end du 14 juillet.
Et d'ailleurs, avant un nouveau comité interministériel prévu ce matin consacré à la chaleur, et bien sans attendre, il y a le gouvernement qui déclare un plan inédit face à cette chaleur, un plan hors sec en raison de cette canicule pour mettre à l'abri notamment les personnes les plus vulnérables. Alors dans tous ces départements-là en alerte rouge dont on parle, eh bien aux heures les plus chaudes de la journée, les plateformes Uber Eats et Deliveroo bloquent désormais les livraisons de repas dans les grandes villes. C'est une décision qui a été prise un peu plus tôt dans la semaine à la demande du ministère du Travail pour protéger les livreurs qui circulent souvent à vélo et sont parmi les plus précaires. Cassandre Brou en a interrogé pour RMC.
Installé en plein soleil, à côté de son scooter, Amine, 22 ans, attend qu'une commande soit passée.
Ça me dérange pas la chaleur. Je vivais en Afrique, 37 degrés, je la voyais tous les jours.
Ce jeune livreur enchaîne les commandes toute la journée. Il ne comprend pas la décision des plateformes de suspendre les livraisons entre 14h et 18h en cas de vigilance rouge canicule.
C'est au livreur de décider s'il veut travailler. Il y a des gens qui vont gagner leur vie, il est en décharge dans des dettes.
Mamadou, lui, n'envisage pas une pause aussi longue pendant l'après-midi.
Quand tu es assise comme cela pendant les 4 heures du temps, tu ne peux pas aller te reposer chez toi, puisque chez toi, c'est loin. Tu vas perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi.
Entre 14h et 18h, est-ce que c'est un moment où vous avez beaucoup de commandes?
Oui, les gens, ils ont besoin de ça. Des trucs fraîches, boissons, des salades.
Mais pour Fabien Tosolini, délégué national du syndicat d'Union Indépendant, il y a urgence à protéger les livreurs pendant ces fortes chaleurs.
On ne peut pas sacrifier la santé au profit de la rentabilité. Il faut être en mesure de garantir la santé du livreur et la rémunération du livreur.
Des négociations avec les plateformes doivent avoir lieu en septembre prochain pour tenter d'obtenir une compensation financière en cas de suspension des commandes pendant la canicule.
Alors les incendies toujours qui ont des conséquences sur les vacances, un camping, 400 personnes évacuées dans la Drôme hier dans les montagnes autour de Die où le feu a parcouru près de 3500 hectares. Il y a 4000 personnes qui sont bloquées encore ce matin en Savoie, à Pralognan-la-Vanoise, la route d'accès en fait qui est coupée en raison de l'incendie toujours en cours à planer dans la montagne en face de Courchevel. Et ce matin il y a seule la Haute-Garonne qui est en alerte maximale pour les risques d'incendie. Un petit peu de répit donc dans les autres départements. Il y a aussi la carte de la route, c'est un des week-ends les plus chargés de l'année qui commence rouge au niveau national, noir en région Auvergne-Rhône-Alpes. Demain, ce sera noir dans la moitié du pays, prévient déjà Bison Futé. Et puis la route du Tour de France également, qui quitte les Pyrénées aujourd'hui, direction Ajetmo pour... Départ d'Ajetmo, pardon, pour une étape de 175 km, direction Bordeaux, un sprint attendu sur les quais. Maillot jaune, qui est de retour sur les épaules du Slovène Tadej Pogacar. Il a écrasé la course hier dans la sixième étape au Tourmalet, en collant 2 minutes 40 à son principal concurrent, le Danois Jonas Vingegaard, et 3 minutes même aux autres favoris.
C'était le journal de Quentin Vinet. Je voudrais prendre un petit instant pour vous remercier du fond du cœur, parce que les audiences viennent d'être annoncées. Vous savez, c'est à peu près tous les deux mois et demi qu'on a les audiences de la radio, et vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter. Vous êtes 2,8 millions chaque jour sur RMC, et à titre personnel et vraiment au nom de toutes les équipes d'Apolline Matin, un merci tout particulier, parce que vous êtes 45 000 de plus, 45 000 nouveaux auditeurs que l'on a donc gagnés, qui nous ont rejoints depuis un an. Sur un an, 45 000 de plus, c'est énorme, et dans le contexte actuel, c'est une vraie marque de confiance que vous nous faites. On vous en remercie vraiment du fond du cœur, et on est là avec vous, pour vous et avec vous en particulier au 32-16, bien sûr. Merci d'être venu nous écouter et nous accompagner tout au long de cette saison. Merci aussi de continuer à écouter RMC. L'équipe des sports en particulier fait un travail extraordinaire en ce moment. On pense particulièrement à eux. Ils sont au rendez-vous. Vive RMC. Il est 8h11.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et évidemment, ce matin, on va vibrer ensemble. Dans un instant, pas d'Arnaud de Manche, mais on va revenir sur la Coupe du Monde. Les Bleus qualifiés pour les demi-finales avec Eric Dimeco, bien sûr, en direct avec nous. Daniel Riolo, qui a pas beaucoup dormi, mais qui est avec nous aussi. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Daniel, quel adversaire pour les Bleus en demi? On va évidemment y revenir avec vous tous aussi qui nous appelez au 32-16. Venez partager. Notez également qu'à 8h30, l'invité du face-à-face, ce sera le spécialiste du Moyen-Orient, Gilles Kepel. Retour de la guerre en Iran et puis surtout Donald Trump, visiblement ciblé par les services secrets iraniens qui ont des projets pour l'assassiner. Réponse et explication donc à 8h30. Restez bien avec nous, les 8h11.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h14 sur RMC et RMC. Sorry, les bleus qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Vous l'avez vécu évidemment en direct sur RMC. Ce sera la Belgique ou l'Espagne face aux Français et ce sera le 14 juillet, mardi prochain. Bonjour Eric Dimeco.
Bonjour Apolline.
Eric, comment ça va? Notre fil rouge et notre porte-bonheur, j'ose le dire, Eric, depuis le début de la compétition. Et Daniel Riolo, salut Daniel, journaliste RMC Sport évidemment.
Bonjour.
Les Bleus tranquilles hier, ça augure de bonnes choses pour la suite, Eric?
Ah ben oui, ben on est dans nos objectifs pour le moment, hein. Alors d'une facilité déconcertante, mais on savait que cette équipe-là faisait partie des favoris, que le minimum syndical c'était une demi-finale, que dans cette nouvelle formule, ben c'est peut-être à ce moment-là qu'on rencontrerait les grosses équipes. Voilà, ce qui est impressionnant, c'est la facilité et la force que dégage cette équipe-là, et surtout le virus qu'elle met dans le cerveau des adversaires. Je trouve que c'est peut-être le plus important. Parce que
le mental, quoi.
Non, le fait que
Le Maroc. Mais ça aussi, je trouve les sourires. C'est-à-dire qu'on a l'impression
qu'ils
sont désarmants.
Oui.
Ils sont désarmants.
Mais on avait parlé du Maroc avant ce match-là, en disant que c'était une équipe qui jouait avec un coach qui avait des certitudes et qu'il allait les appliquer contre nous. Ben non, il a mis une équipe parce qu'il a eu peur de l'équipe de France. Et ça, c'est aussi une force de notre équipe.
Daniel.
Oui, je crois que le mot qui va revenir le plus souvent dans les commentaires d'après-match et dès hier soir, c'est la facilité avec laquelle l'équipe de France s'est qualifiée. Oui, c'est surprenant. C'est pas la première fois que la France va jouer une demi-finale de Coupe du Monde. Si on prend les autres fois où c'est arrivé et si on arrive à se souvenir des matchs, 98, le quart de finale, le France-Italie, irrespirable. En 2018, le France-Uruguay, très compliqué malgré le score, mais très compliqué jusqu'au bout. On avait tremblé. Là, quart de finale de Coupe du Monde. France-Maroc, pas de suspense. Mais le pas de suspense, vous le sentez dès le début. Et depuis le
ça
début.
Ça se passe uniquement.
Depuis le début de la compétition.
Uniquement de notre côté, quoi.
Depuis le début de la compétition. Alors, le problème, c'est qu'au début, on disait, bon, les matchs sont faciles. Parce que oui, cette nouvelle formule, en fait, elle a eu, pendant qu'on racontait à tout le monde que c'était formidable, qu'il y ait plein de petits pays, oui, sauf que ça protège les gros aussi. Donc, et ça, on le dit pas assez. Donc, les gros ont été protégés. Donc, il était difficile d'évaluer les bleus parce qu'on disait, jouer l'Irak. La Norvège qui avait fait tourner, qui avait mis une équipe B. Puis alors après, on avance, c'est l'Irak et la Suède, c'est pas fort. Bon, le Maroc, le niveau s'est élevé un petit peu, mais on s'est bien rendu compte que c'est pas assez. C'est pas assez. C'est comme si, Pogacar a fait une équipe de montagne hier et il s'est promené. Bah, les bleus, c'est pareil, quoi. C'est pour lui, c'est un faux plat. Et pour les autres qui galèrent derrière, c'est de la montagne. Et ben les bleus, c'est pareil. C'est un faux plat hier. À peine. Même pas. Et donc, vous allez arriver en demi-finale. Et en demi-finale, on attend, on dit, alors qui? Mais il manquerait plus que les Belges fassent un exploit. Un match un peu tordu qui sorte l'Espagne. L'Espagne, pour le coup, ça serait un vrai adversaire compliqué. Voilà. Donc, en demi-finale, la Coupe du Monde, elle peut commencer pour les bleus. Ils sont trop forts. Mais c'est simple, vous regardez les joueurs. C'est que des joueurs qui jouent dans des gros clubs. C'est simple, au bout d'un moment,
on est trop fort, Eric.
C'est les individualités. On a les individualités les plus fortes au monde.
On est trop fort. Alors évidemment, ça va se jouer aussi ce soir, puisque Belgique ou Espagne, on aura la réponse. Comment vous projetez-vous, Eric?
Oui, là pareil, il y a une équipe qui a l'air au-dessus de l'autre, mais avec peut-être moins de certitude, notamment offensivement. Je les ai trouvés plutôt inoffensif offensivement contre le Portugal, c'est-à-dire que Yamal a pas encore retrouvé sa vitesse de croisière et ils ont pas la même force de frappe devant que nous, donc peut-être qu'ils vont tomber dans un match galère comme contre le Portugal, mais moi si je devais jouer ma maison, je la jouerais sur l'Espagne quand même. Mais on souhaite à nos amis belges de se qualifier, ça donnerait un joli.
Il joue sa maison là, il y va Eric.
Daniel.
Ah oui, de toute façon, le jeu, c'est dans ces cas-là, c'est si on vous pousse. Donc si on vous pousse, bah oui, on met les maisons et la voiture sur l'Espagne, parce que sur le papier, c'est plus fort. Maintenant, les Belges, oui, avec une tactique qui consisterait à attendre les Espagnols et les contrer, pourraient faire l'exploit. Mais l'Espagne, là, pour le coup, qui arriverait face à la France, là, on se dirait, enfin, ça va être du costaud.
Bon, Daniel et Eric, il y a Kevin qui va vous calmer un peu, parce que je crois que Kevin qui nous appelle d'Agen. Bonjour, Kevin. Vous dites, c'est pas gagné.
Alors, c'est pas que je me dis que c'est pas gagné. Effectivement, je suis un peu d'accord avec Daniel et Eric sur le fait que c'est d'une facilité assez déconcertante comme on les voit jouer. On peut paraître un peu arrogant niveau football, mais c'est la force de cette.
C'est de la lucidité. C'est de la lucidité,
ouais,
Kevin.
C'est ça, mais c'est vrai.
Et je trouve que Guy Stéphane apporte cette lucidité qu'il a toujours apportée depuis 50 ans qu'il officie aussi aux côtés de Didier Deschamps. Malgré tout, j'ai un petit peu peur sur certains points, notamment sur le côté rugueux qu'on peut mettre face à nous. Là où on a été en difficulté, c'est quand ça devient un peu plus rugueux. Bon, un tout petit peu hier soir, mais ça s'est plus noté sur le Paraguay. Et là, on a du mal à poser notre jeu, nos individualités. Et même si on pourrait se dire qu'en face, les équipes pourraient être 14 ou 15, on gagnerait quand même, parce que c'est ce que je pense. J'ai un petit peu peur de ce côté rugueux. On sait très bien que ce soit l'Espagne ou la Belgique. Ils ont changé leur façon de jouer au football. Et je pense que face à la France, avec un derby un petit peu européen, on va prendre un peu de ce côté un peu plus costaud dans les échanges.
Un dernier mot là-dessus ? Daniel ?
Non, je crois pas, parce que c'est vraiment pas du tout le style de jeu de l'Espagne. L'Espagne cherchera justement à imposer son jeu collectif, et il y a que ça qui pourrait embêter les Bleus, mais encore une fois...
Et quand ça nous conviendra mieux peut-être.
Ça nous conviendra mieux, les individualités qu'on a, les quatre de devant peuvent faire vraiment très mal, et les Espagnols, Eric a commencé à le dire, Lamine Yamal, qui était censé être l'une des stars de cette Coupe du Monde, pour l'instant n'est pas au rendez-vous. Il est arrivé un petit peu blessé. Et il y avait un autre joueur qu'on attendait de l'autre côté, Nico Williams, qui lui n'est pas là du tout. Donc les Espagnols, offensivement, sont pas pour l'instant redoutables.
Eric Dimeco, Daniel Riolo et Kevin, merci à tous les trois. Il est 8h20 et c'est l'heure de féliciter Camille. Bonjour Camille.
Oui, bonjour.
Bravo, vous êtes livreur, je crois, dans les Landes et on vous offre vos vacances.
Ah bah super, merci beaucoup.
On est trop contents, c'est vous qui avez gagné les vacances. Merci de votre fidélité à RMC.
Oui, mais merci à vous.
Et vos vacances, vous avez... Allez-y, vous vouliez dire un petit mot peut-être.
Non, juste que je suis livreur depuis 2 semaines et donc je suis client fidèle de RMC depuis 2 semaines, quoi.
Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'il fallait, juste au bon moment. Camille, félicitations, vous avez donc gagné ce séjour d'une valeur de 2000 € dans les clubs et hôtels Bellambra. C'était le dernier jour pour les gagner, donc vous avez bien fait. Vous allez pouvoir choisir parmi 45 destinations. Bellambra qui s'occupe des enfants, des activités, des repas, c'est le tout compris premium. Félicitations à vous, il est 8h21, dans un instant, c'est le face-à-face. RMC et BFM TV. Mon invité, c'est Gilles Kepel, le spécialiste du Proche-Orient. On l'a appris cette nuit. Donald Trump, visiblement ciblé par l'Iran, qui souhaite tenter, via ses services secrets, de l'assassiner. Les explications et l'analyse de Gilles Kepel.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Quentin Vinet.
Et la France, vous le savez bien, en demi-finale de la Coupe du Monde de football, qualifiée hier soir face au Maroc de 0, but Kylian Mbappé, un autre Ousmane Dembélé. La demi-finale, ce sera mardi soir, le 14 juillet, face à l'Espagne ou la Belgique qui s'affronteront ce soir. En termes de sécurité, 10 interpellations en région parisienne, voilà pour le bilan, des heurts aussi signalés par la presse locale à Nice et à Grenoble. Et alors malheureusement, la soirée a été endeuillée près de Maubeuge. C'est le journal La Voix du Nord qui révèle ce matin la mort d'une adolescente de 17 ans, tuée après être tombée d'un camion. Elle était montée sur un tracteur, en fait, avant de trébucher et d'être percutée par un véhicule. Le gouvernement déclenche ce matin un plan hors sec inédit face à la chaleur pour mettre les personnes les plus vulnérables à l'abri, notamment avec une nouvelle réunion consacrée à la canicule dans la matinée. Canicule qui s'étend 9 départements de l'Ouest en alerte rouge ce matin. Demain, cette vigilance rouge va s'étendre à 2 autres régions, à savoir Île-de-France et Centre-Val-de-Loire. Ce matin, la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, fait savoir que 6000 climatiseurs ont été livrés dans les hôpitaux. C'est moins que les 30 000 qui avaient été promis par le Premier ministre pour le début de la semaine. Les températures pour cet après-midi, on attend entre 28 à Biarritz et 39 à Lyon. En ce jour de départ en vacances, une des journées les plus chargées de l'année qui commence.
C'était le rappel des titres de Quentin Vinet. Dans un instant, mon invité, c'est le spécialiste du Moyen-Orient, Gilles Kepel. Donald Trump, ciblé par les Iraniens, menacé d'assassinat. On y revient dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Gilles Kepel.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes professeur émérite des universités, spécialiste du Moyen-Orient. Et on a bien besoin de comprendre où est-ce qu'on en est au fond. Est-ce que c'est le retour de la guerre après des frappes à nouveau, à la fois de la part de l'Iran, mais aussi de la part des États-Unis? Et puis cette information, c'est les confrères et américains qui le disent, mais citant des sources israéliennes qui auraient alerté Donald Trump sur le fait qu'il soit la cible des services secrets iraniens qui souhaiteraient l'assassiner. C'est crédible?
Alors ça s'inscrit dans un contexte où il y a effectivement beaucoup de tensions, vous l'avez rappelé. Un phénomène tout à fait surprenant, c'est que vous l'avez vu, Donald Trump est allé au sommet de l'OTAN à Ankara dans son palace volant offert par le Qatar, qui avait un peu, on avait un peu remis l'avion en place, mais on n'avait pas véritablement fait un avion aussi performant en termes de sécurité et d'avion militaire, d'une certaine manière, que le précédent, ce qui fait qu'on l'a fait revenir dans le vieil avion.
Il a changé d'avion au milieu, effectivement, de son de ce sommet de l'OTAN. Il est reparti avec le traditionnel Air Force One, semble-t-il, parce qu'il craignait éventuellement que le premier ne le protège pas suffisamment.
Voilà, ça semble de toute façon être le cas, indépendamment de toute velléité d'attentat prévu. Par ailleurs, on voit bien, on y reviendra tout à l'heure, que à l'intérieur des dirigeants iraniens aujourd'hui, ça tire à U et à Dia, et que vous avez une tendance maximaliste qui essaye de l'emporter sur ceux qui négocient, dans un contexte où il y a de moins en moins un guide suprême. On l'a enterré, ce guide suprême, avec chacun essayant de se prévaloir de son aura ou de son onction pour faire passer ses causes, mais le fils n'était pas là.
Donc on l'a toujours pas vu.
Donc il sert de totem, si vous voulez, pour faire passer les choses. Mais ça permet à toutes sortes de factions de se disputer.
Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de guide suprême d'ailleurs au fond? Véritablement, tout, techniquement. Enfin,
c'est dans le chiisme, il y a la notion de l'imam caché, donc d'une certaine manière, il l'incarne à sa façon, mais on n'en sait rien. Enfin, en tout cas, ceux qui sont ici n'en savent rien. Et puis, bien évidemment, ça s'inscrit dans un regain de tension aujourd'hui, et le fait que Israël soit l'État qui est surtout annoncé ce genre de choses va bien dans une tentative que font les Israéliens aujourd'hui de revenir en grâce dans le premier cercle de Donald Trump, puisque au fur et à mesure que la négociation avançait, Bibi Netanyahou se faisait tordre le bras de plus en plus. Bibi Netanyahou, dont vous avez certainement vu que pour la première fois il est en retard dans les sondages pour
les élections. Dans le cadre de l'élection.
Voilà, de l'automne, il est doublé par le général Eisenkot, d'origine séfarade.
Donc il pourrait être battu aux prochaines élections, Benjamin Netanyahou.
Enfin, une élection, c'est le jour où il y a eu les élections. Pas toujours, du reste, on le sait rarement avant, mais là, c'est la première fois.
En tout cas, il est en difficulté pour la première fois. Gilles Kepel, revenons quand même à cette question, effectivement, de cette menace qui pourrait être sur la vie de Donald Trump. Il l'a d'ailleurs reconnu lui-même, mais avec toujours une forme de légèreté étonnante, disant presque qu'il se gargarisait d'être la cible numéro un de l'Iran. Les phrases d'ailleurs prononcées, les slogans « mort à Trump » ont été entendus à de très nombreuses reprises, y compris écrites sur des banderoles
pendant les
fameuses funérailles. Quand je vous demandais est-ce que c'est à prendre au sérieux, est-ce que c'est plus aujourd'hui qu'hier? C'est-à-dire que, est-ce que c'est une manière pour Israël de dire, voilà, on est en effet dans le jeu, ou est-ce que c'est parce que cette fois-ci, cette menace est plus sérieuse que d'habitude?
Ça peut être les deux. Il est clair que Netanyahou a aujourd'hui intérêt à montrer que aller négocier avec les Iraniens, c'est vraiment trop dangereux, et qu'il faut garder ses alliés traditionnels, c'est-à-dire Israël et surtout Netanyahou, qui est en difficulté. Par ailleurs, on voit bien l'exacerbation de la tension à l'intérieur des composantes de la société iranienne. Vous avez vu ce qui s'est passé, c'est que l'Iran, en fait, et les États-Unis ont signé ce Memorandum of Understanding, cet
accord,
ce préaccord, déclaration préalable, et qui indiquait notamment que l'Iran garantissait la liberté de passage pendant les 60 jours. Mais l'interprétation de l'Iran, c'est que nous la garantissons. Donc, tout ce qui se passe en dehors de notre passage, nous l'interdisons.
Et donc, les bateaux, soit vous passez au large,
soit
vous passez effectivement au plus près des côtes iraniennes. Et dans ces cas-là, ok, mais au moins vous avez sous notre contrôle.
Vous avez demandé la permission et vous avez subi l'inspection, etc. Soit vous passez de l'autre côté en Oman. Alors, au départ, les Iraniens s'étaient entendus.
La partie sud, le long de
ce qu'on appelle le Musandam, c'est-à-dire le cap qui est omanais dans le détroit d'Ormuz, au sud. Et, Oman s'était plus ou moins entendu avec l'Iran, qui avait dit on va partager les frais de péage, etc. Et on imagine que la pression gigantesque des autres pays du Golfe, notamment du Qatar, des Émirats et autres, a été telle, ainsi que les États-Unis, que les Omanais ont fait un pas en arrière et désormais ont vu avec les Américains et les autres golfiotes le fait qu'il y ait cet autre passage qui est libre de mines actuellement dans lequel les bateaux pouvaient passer.
Mais c'est là que 3 navires ont été touchés, visés par l'Iran.
Et que l'Iran vise des navires de nationalités qui ne sont pas parties au conflit, d'une certaine manière, ça c'est dangereux. Mais là, le point de force, c'est que c'est un méthanier qatari qui a été visé. C'est-à-dire, un méthanier, c'est un bateau qui transporte du gaz, en l'occurrence du LNG sous pression, et c'est une bombe flottante. Si vous coulez un pétrolier, ça fait une marée noire, c'est déplorable, mais ça n'ira pas plus loin. En principe, là, ça risque d'avoir des conséquences de déflagration.
L'explosion peut être considérable.
Absolument. Alors, ce sont des bateaux qui sont surprotégés, mais néanmoins, c'est un signe qui n'avait jamais été atteint. Et surtout, pourquoi le Qatar? Alors que le Qatar, c'est le pays qui est le plus proche de l'Iran dans l'immigration.
C'est celui qui tente de, justement,
et c'est celui qui devrait être le premier à payer, puisque dans la perspective de dégel de fonds iraniens gelés, il y en a 6 milliards qui sont de dollars qui sont au Qatar et qui étaient devaient être mis sur la table. Donc on voit bien que à l'intérieur du système iranien, vous avez aujourd'hui une tendance, probablement à l'occasion des funérailles, qui essaye de reprendre le dessus et qui dit non, on va faire la pression militaire maximale avec tous les moyens, parce que sinon, si on lâche, on va perdre. Le détroit d'Ormuz, c'est notre garantie de sécurité. Si on commence à laisser passer des bateaux, même du côté iranien, alors du côté omanais, pardon, alors nous n'avons plus la possibilité de contrôler.
Gilles Kepel, je vais précisément essayer de comprendre, au fond, du point de vue iranien et du point de vue américain, ce qui se joue du point de vue iranien, si je vous comprends bien, c'est aussi une question d'influence au sein même du pouvoir iranien. Qui décide aujourd'hui? Qui décide, par exemple, de tirer sur ces 3 bateaux? Qui décide de remonter la pression? Qui a les manettes?
Il y a une instance qui le revendique, qui est ce qu'on appelle Khatam al-Anbiya, c'est-à-dire le sceau de la prophétie, qui est le nom du commandement militaire des gardiens de la révolution. Mais on n'a pas de figure particulière, il y a des porte-paroles qui se succèdent, et ce sont ceux qui revendiquent les frappes, tout en laissant encore une place à la négociation. C'est-à-dire, les frappes sont perçues comme c'est la faute des Américains, c'est eux qui ont commencé, ils nous ont provoqué en envoyant des bateaux dans le couloir omanais, on a tiré dessus parce qu'ils n'avaient pas à le faire, et du coup, ils ont bombardé l'Iran, ils ont pris le risque de briser le MOU, ça. Nous avons répliqué justement, et on va voir ce qu'on va voir. Mais l'idée, c'est de continuer à faire de la force, de la pression au maximum, tout en considérant qu'il peut y avoir une négociation à la fin qui est davantage dans les intérêts de l'Iran. Vous voyez, c'est ça. Et d'où Hormuz, parce que c'est aujourd'hui devenu leur enjeu principal. Il y avait jusqu'alors Hormuz et la situation au sud du Liban et au nord d'Israël. Ça a été relativement mis de côté pour l'instant. Et la focalisation, c'est Hormuz.
La question maintenant du point de vue américain.
Et si j'ose dire, il y a l'élément aussi. Hormuz, ça veut dire le prix du pétrole qui remonte.
Et ça enlève. Vu, d'ailleurs, de manière 6, immédiate.
6,5%, c'est pas encore gigantesque, c'est à $75 à peu près, ou un peu plus maintenant.
Ça
a changé de sens.
Ça a changé de sens, ça a commencé à baisser, même si depuis une semaine, les prix alors là pour le coup au bout de la chaîne à la pompe était tout à fait stable, voire même remontait déjà légèrement. Gilles Kepel, du point de vue américain maintenant, certains disent qu'au fond, étant débarrassé désormais de son calendrier de festivités, et notamment du 4 juillet, et même si la Coupe du Monde n'est pas terminée, les Américains ne sont plus dans le jeu, est-ce que ça veut dire aussi que Donald Trump au fond se dit bon, j'ai peut-être un peu laissé se terminer cette guerre sans frapper suffisamment, je veux montrer que je suis capable d'aller jusqu'au bout. Est-ce que cette théorie-là tient, ou est-ce qu'il n'est que dans des soubresauts de réponse? Est-ce qu'il peut se dire, au fond, allez, je reprends la guerre parce que je n'avais pas vraiment fini?
Il y a ça, et puis il y a lui aussi, il y a des élections. C'est-à-dire qu'il faut qu'il aborde dans la meilleure les meilleures conditions possibles les élections de midterms pour le parti républicain. Ce qui veut dire d'abord un enjeu d'image, ne pas donner l'impression de s'être couché devant l'Iran et d'apparaître affaibli, mais également de faire en sorte que le contraire, c'est qu'il faut que le prix du pétrole reste bas, puisque c'est la fameuse driving season.
Donc il est tiraillé en fait entre ces deux questions, se montrer effectivement victorieux, et de l'autre côté en même temps mettre fin le plus vite possible à tout cela et que le prix du pétrole redescende.
Si possible, voilà, c'est un peu le dilemme dans lequel il est pris aujourd'hui. Alors bien sûr, dans cette rhétorique politique, quand on dit je suis menacé de mort, etc., ça a un effet, on se rassemble derrière le drapeau, derrière le président.
Deux questions très importantes aussi sur lesquelles je voudrais vraiment avoir votre explication, Gilles Kepel. La question d'une éventuelle reprise aussi par Israël des bombardements après cette déclaration. Nous sommes prêts à attaquer l'Iran une troisième fois si c'est nécessaire. Mais d'abord, l'équilibre de la région, la question du rapport des uns et des autres, vous l'avez dit, un bateau qatari touché par l'Iran, alors qu'ils auraient plutôt intérêt à les ménager. Et puis la question de l'Arabie Saoudite, de tous les pays du Golfe, où en sont-ils aujourd'hui entre les États-Unis et l'Iran?
Et pas seulement ça, mais aussi la Syrie, qui intéresse particulièrement la France, puisque Emmanuel Macron, accompagné
revient de cette première visite officielle,
Patrick Pouyanné, Rodolphe Saadé, entre autres, en Syrie, la Syrie apparaissant dans cette perspective comme un moyen de contourner le détroit d'Ormuz. Puisque en Syrie, vous aviez depuis l'époque du mandat français sur le Liban et la Syrie dans l'entre-deux-guerres, un oléoduc qui amenait les pétroles du sud de l'Irak, de la région de Kirkouk, Mossoul, etc., vers la Méditerranée. Ce qui évitait à l'Irak, qui aujourd'hui est complètement bloqué car son pétrole ne passe plus qu'au compte-gouttes par la Turquie et par le Kurdistan, de pouvoir exporter son pétrole.
C'est très intéressant, c'est-à-dire que Gilles Kepel, vous lisez cette visite, elle avait évidemment un rôle diplomatique, montrer que la France est le premier pays à revenir en Syrie depuis le changement de régime, mais aussi, vous avez presque dit, je crois, Emmanuel Macron accompagnait les patrons, comme si c'était eux-mêmes qui étaient au fond presque. Les meneurs, et vous citez à la fois le patron de Total, M. Pouyanné, le patron de CMA-CGM, par ailleurs d'ailleurs propriétaire de BFM TV et d'RMC, qui lui s'occupe des transports, CMA-CGM, oui. Rodolphe Saadé, ça veut dire que pour vous, c'est ça le nouvel enjeu, la stratégie de la Syrie?
C'est un enjeu très important.
Faire ce choix-là.
Oui, puisque on n'en est pas là, parce que les conditions de sécurité, Patrick Pouyanné l'a bien dit, ne sont pas encore réunies.
Et d'ailleurs, il y a eu deux explosions, voilà, alors même que Emmanuel Macron était présent sur place.
Djihadistes très méchants, mais c'était peut-être aussi le business d'autres pays de la région qui n'avaient pas envie de voir revenir les Français dans la boucle, on n'en sait rien. Mais c'est dans la recomposition globale, il y a ça, ces enjeux économiques très importants qui sont aussi l'évacuation des flux pétroliers dans la perspective qu'Ormuz reste difficile à traverser. Alors, tout le monde préfère ça, que ça soit
Mais il
libre.
Faut préparer la suite, en quelque sorte.
Voilà, il faut préparer les choses, et donc la visite en Syrie s'inscrivait aussi dans cette éventualité. On mettait des jalons, on n'en est pas encore là. Parce
le régime a vraiment changé en Syrie?
Le régime n'est plus celui d'Assad. Bon, maintenant, Monsieur Sharia, c'est quand même un ancien djihadiste recyclé, alors qui donne toutes sortes de promesses, mais dont une partie des troupes n'ont pas du tout renoncé à leurs engagements de départ. Donc, il faut toujours être assez prudent. Il est visiblement très désireux de ne pas faire de faux pas, en particulier de ne pas intervenir au Liban, comme Trump l'avait incité à le faire. Et c'est aussi un élément de stabilité. La Syrie est un élément clé pour la stabilité côté du Liban. Et ça, bien sûr, pour la France, c'est un enjeu très important vu l'importance des liens entre la France et le Liban.
Gilles Kepel, Israël est prêt à attaquer l'Iran une troisième fois si nécessaire. Voilà ce que disait le ministre de la Défense israélien hier. Ça aussi, c'est crédible. Est-ce que ça veut dire que Israël se dit, mais irait-il sans les Américains?
Mais non, ils n'iront que s'ils ont l'autorisation de Trump. Et je n'ai pas l'impression que les États-Unis aujourd'hui aient besoin de faire entrer Israël dans le jeu, puisqu'il ne s'agit pas d'une guerre finale ou d'une guerre d'extermination dans les deux cas, mais d'une guerre qui fait que l'un et l'autre des négociateurs, si j'ose dire, l'Iran d'un côté et les États-Unis de l'autre, arrivent dans une position de force à la table des négociations. Et c'est pourquoi la dimension de l'attaque iranienne ressemble davantage à un peu une sorte de fuite en avant, parce qu'ils ont l'impression que c'est leur dernière carte. S'ils n'arrivent pas à contrôler Hormuz, si Hormuz leur échappe, alors ils n'ont plus rien.
Les Iraniens sont affaiblis aujourd'hui. Est-ce qu'ils sortent affaiblis ou renforcés de cette séquence?
Enfin, ils sortent renforcés sur le plan idéologique. Le régime a quand même tenu, ils ont résisté à la plus grande armada du monde, etc. On n'a aucune idée de l'ampleur des foules qu'il y a eu lors des obsèques de Khamenei, qui sont passées, qui ont fait montré une sorte de géographie du contrôle, parce que
Le cercueil
est allé également en Irak, à Najaf et à Karbala, pour montrer un peu, pour marquer le territoire contrôlé par l'Iran dans la région, si vous voulez. Mais après, on a pu filmer de près.
Mais c'était difficile donc d'imaginer part de cette foule était libre ou non. Avec encore cette question, Gilles Kepel, du rôle de la Turquie. J'aimerais qu'on termine là-dessus, puisque c'est là qu'a eu lieu le fameux sommet de l'OTAN. Elle est dans le camp occidental ou elle est dans l'autre camp, la Turquie?
Elle est dans tous les camps à la fois, et ça, c'est la volonté de l'Anatolie et du Bosphore et des Dardanelles, c'est de faire le pont entre l'Europe ou l'Occident et l'Orient, voilà, c'est ça. Et bien sûr, les Turcs essayent de pousser leur avantage. La Turquie est devenue aujourd'hui une puissance militaire. Ce sont eux qui ont été les premiers à fournir des drones de manière systématique. Et puis c'est pas seulement Est-Ouest, la Turquie, c'est aussi la relation entre la mer Noire, c'est-à-dire le conflit russo-ukrainien, et la Méditerranée. Donc Erdogan essaye de faire monter son rôle. L'armée turque est la deuxième armée en nombre de soldats dans l'OTAN, après les États-Unis. Et donc l'objectif, c'était de renforcer ce rôle de la Turquie, qui veut bien sûr jouer sa partie au Moyen-Orient, face à des rivaux comme les Émirats Arabes Unis, par exemple, en s'alliant parfois avec l'Égypte, parfois avec l'Arabie Saoudite. Mais cet ensemble est extrêmement fragile, comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, votre question. On voit bien que les alliances conjoncturelles des uns et des autres peuvent se faire et se défaire. La guerre a complètement déstabilisé, et ça n'est pas redistribué, si vous voulez.
Elles sont pour l'instant éparpillées,
exactement,
quelque sorte.
Et c'est le cas, par exemple, du Conseil de coopération du Golfe, où on voit que l'Arabie Saoudite et les Émirats ont des stratégies complètement différentes aujourd'hui, y compris dans la région, que le Qatar joue sa partie en étant aussi pris en otage de l'Iran quand il va trop loin. Donc tout ça est un enjeu de lecture extrêmement complexe, et on n'a pas fini d'en parler.
Chacun, finalement, a sa propre partition à jouer.
En grande partie, oui.
Merci beaucoup, Gilles Kepel, d'avoir répondu à mes questions ce matin et nous avoir éclairé sur la situation aujourd'hui. Vous êtes professeur émérite des universités, spécialiste du Moyen-Orient. Il est 8h46 sur RMC et BFM TV.
Merci Apolline, vous restez bien sur RMC à 8h47. C'est l'heure du Mondial de Virginie. Et vous savez quoi? Les Bleus sont en demi.
RMC, Apolline Matin.
8h50, vous êtes sur RMC, bien sûr. L'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde, bien sûr.
RMC, le Mondial de Virginie.
Et bonjour Virginie Fulpin.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Toutes les infos sur la Coupe du Monde, c'est tous les matins avec vous. La France a battu le Maroc 2-0 hier soir en quart de finale. Les Bleus affronteront l'Espagne ou la Belgique mardi.
Et mardi, c'est le 14 juillet. Les Bleus vont disputer leur troisième demi-finale de suite en Coupe du Monde, et plus si affinité. Seul le Brésil et l'Allemagne ont réussi la même chose dans l'histoire, pour situer un petit peu la performance. Hier soir, les Bleus ont donc battu le Maroc 2-0 dans un stade de Boston, pourtant très majoritairement acquis au Lion de l'Atlas. La victoire a mis un petit peu de temps à se décider. L'équipe de France dominait largement, mais on peut souligner la performance du gardien marocain. Il a même arrêté un pénalty de Kylian Mbappé. Mais à l'heure de jeu, Yacine Bounou a fini par céder. Vous l'avez vécu sur RMC.
Doué, faut batailler pour ce genre de ballon. Voilà qui est fait par Rabiot. Doué qui la récupère derrière, qui la glisse à Mbappé. Allez Mbappé, Mbappé, la frappe. Eh oui, Kylian Mbappé, après le pénalty raté, délivre l'équipe de France dans ce quart de finale de la Coupe du Monde. La spéciale ballon enroulé, deuxième poteau, et les Bleus mènent 1-0.
Voilà, situation débloquée avec Jean-Louis Tourin. Oui, bien sûr. Attendez. 6 minutes plus tard, c'est Ousmane Dembélé qui est venu clore les débats.
Dembélé, Dembélé, Mbappé, le crochet de Dembélé, la frappe de Dembélé, et le but.
Ben voilà,
le deuxième but pour l'équipe de France.
Voilà, 2-0, la messe était dite. Didier Deschamps a pu faire tourner. Il a même offert à Warren Zahir Emery ses premières minutes de jeu depuis le début de la Coupe du Monde. Convaincant d'ailleurs, le Parisien.
Alors, ces Bleus dégagent une force assez incroyable.
Depuis le début de la compétition, ils sont constants dans l'excellence. Je mets de côté le match contre le Paraguay où ils ont montré d'autres qualités, comme celle de ne pas craquer devant les provocations. Mais cette équipe est un rouleau compresseur. 6 matchs, 6 victoires, 16 buts marqués, la moitié par Kylian Mbappé, et 2 seulement encaissés. Tiens, est-ce que le capitaine des Bleus a l'impression d'évoluer dans la meilleure équipe du monde ?
J'ai été champion du monde et j'ai été vice-champion du monde. Cette équipe, elle est ni champion du monde, ni vice-champion du monde. Donc à l'heure actuelle, c'est pas la plus forte. C'est celle qui a le plus de potentiel, celle avec laquelle on peut se projeter le plus facilement, où il y a beaucoup de qualités. Elle te permet de rêver, bien sûr, mais la plus forte, j'ai toujours dit que les équipes fortes, c'est les équipes qui gagnent. Et jusqu'à preuve du contraire, je vois pas de coupe dorée à côté de moi, donc c'est pas l'équipe la plus forte.
Voilà, du Mbappé dans le texte. Il reste 2 marches à gravir, il a raison, et pas les plus simples pour ramener la coupe à la maison. Mais quand même, en tribune hier soir, Antoine Griezmann a apprécié ses successeurs en équipe nationale. Il y avait du beau monde en tribune d'ailleurs, hein. Gianni Infantino,
ouais,
je plaisante évidemment, on a le droit. Je pensais plutôt à celle qu'on voit peu, mais qu'on entend beaucoup, beaucoup depuis le début du mondial. Je crois que c'est Shakira.
Paraît-il.
Kylian Mbappé lui avait bien dit dans le clip officiel de Die Die qu'il était ready. Et il est rassurant, hein, Kylian Mbappé, sur sa cheville, parce qu'il est sorti en fin de match, il a pris un coup, mais c'est tout, ça va aller.
Bon, ça c'est rassurant pour les demi-finales. Il n'y a pas qu'en France qu'on en fait beaucoup sur les Bleus. Hein.
Alors, en feuilletant la presse internationale, il y a ceux qui, comme les Espagnols, disent que la France représente décidément un gros morceau, assez sobre. Les Anglais se pâment devant Kylian Mbappé en se demandant qui pourra arrêter cet homme. Ne pariez pas contre lui, voilà ce qui ressort. Mais la palme revient au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung. Les Allemands peuvent se lâcher vu qu'ils ne sont plus dans la compétition. C'est la prise d'assaut la plus irrésistible depuis la Bastille. Bon, ok. Rien que ça, ça tombe bien, on a rendez-vous le 14 juillet pour la demi-finale.
Et oui, et c'est ce soir qu'on connaîtra l'adversaire de l'équipe de France, l'Espagne ou la Belgique opposée ce soir avec les Belges qui se remettent à rêver.
Ouais, je crois que pour les Belges, la morale de cette Coupe du Monde, c'est ça.
Le bonheur, c'est simple comme un coup de fil.
Oui, comme celui de Donald Trump à Gianni Infantino, hein, l'équipe belge, elle végétait un peu depuis le début de la Coupe du Monde et puis après ce coup de fil, le carton rouge annulé, etc., ils se sentaient un peu déstabilisés, les Belges, et ils ont battu les États-Unis 4-1. L'équipe a montré un autre visage. Ce soir en face, c'est l'Espagne. Là, c'est un gros morceau.
Un gros morceau, oui. Espagne-Belgique, c'est une belle affiche. Et pourtant, elle passionne peu.
Ben, il suffit de regarder les prix des places sur le marché de la revente. Ils s'effondrent. En quelques heures, le billet le moins cher pour ce match est passé de 2 950 $ à la revente à 1 175. Alors oui, ça reste cher, hein, mais c'est quand même une chute de plus de 60%. Ça pourrait encore baisser d'ici ce soir. Pourquoi ? Ben, en fait, potentiellement, ce quart de finale, il pouvait opposer les États-Unis, chez eux, à Los Angeles, au Portugal et à la superstar Cristiano Ronaldo. Forcément, vous savez, la majorité des Américains, en gros, ils connaissent Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, un peu Kylian Mbappé, mais Thibaut Courtois, beaucoup moins.
Bah, ils vont le découvrir. L'Argentine fait déjà de l'Angleterre sa cible.
Oui, il y a une potentielle demi-finale Argentine-Angleterre si les Anglais battent la Norvège et les Argentins les Suisses, mais juste après leur victoire contre l'Égypte en huitième de finale, dans le vestiaire, les joueurs argentins ont directement visé l'Angleterre. Alors tout y passe, hein. La main de Dieu de Maradona contre l'Angleterre il y a 40 ans. Et on refait la guerre des Malouines. Ça promet cette demi-finale si elle a lieu. On va quand même dire aux Argentins qu'ils ont failli passer à la trappe contre le Cap-Vert, puis encore une fois contre l'Égypte. Alors il faut peut-être pas faire comme si la Suisse c'était juste une formalité.
Les Anglais qui affrontent d'abord la Norvège samedi. Et la presse anglaise surveille tout.
Jusqu'au régime alimentaire d'Erling Haaland, histoire de connaître les secrets de l'attaquant norvégien. Le régime du cyborg, c'est quelque chose. 6000 calories par jour.
Le poulet, la mayonnaise, le chocolat.
Alors oui, on imagine avec des montagnes de nourriture. Bon, vous imaginez bien, il n'y a pas trop de crème glacée et de burgers dégoulinants. C'est viande, poisson, œufs, riz complet et des légumes. 6000 calories, c'est quand même trois fois plus que la moyenne d'un homme de son âge. On va finir par avoir la recette pour marquer des buts.
On va suivre ça avec une grande passion.
Moi,
sur RMC.
Moi, je mange autant, mais je marque moins.
Tout le week-end, hein, il y a Espagne-Belgique ce soir et puis les autres quarts dans le week-end. On me dit dans l'oreillette qu'ils mangent des Brésiliens au petit déjeuner. 8h57. Alain Marchal est là, les GG vont démarrer. Salut Alain.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le 32-16 pour être avec les grandes gueules en direct jusqu'à midi. Cette équipe de France, il y a une espèce de force tranquille. Elle n'est jamais inquiète. Vous savez quoi, moi je vais vous demander, est-ce qu'elle est inspirante même pour vous, cette équipe de France? Est-ce qu'elle est inspirante? Est-ce qu'elle vous rend fier? Vous venez en discuter avec nous au 32-16. Parmi nos autres sujets de discussion, on va s'interroger pourquoi on ne trouve plus de pompiers volontaires. Il va manquer 50 000 pompiers en France d'ici 2030. Là où on aura de plus en plus de canicules et de plus en plus besoin d'intervention de pompiers. Est-ce que c'est un problème avec les entreprises qui ne les libèrent pas? Est-ce que c'est un problème d'engagement, de volontariat? Vous venez en discuter avec nous, bien sûr. Et puis parmi nos autres sujets de discussion, la suspension du permis en cas d'infraction aux stupéfiants. Vous voyez, suspension à titre préventif. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Eh ben, on vous attend. Les grandes gueules, c'est jusqu'à midi.